deuxième partie, chapitre 5. Il était déjà tard, près de 2h30, et quand le prince arriva chez Epanchine, il ne le trouva pas. Après avoir remis sa carte, Mnuchkine résolut d'aller demander Kolia à la balance. En cas d'absence de son jeune ami, il lui laisserait un mot. À la balance, on apprit aux visiteurs que Nicolas Ardalionovitch était sorti depuis le matin. « Si par hasard quelqu'un vient pour moi, » avait-il recommandé en partant, « vous direz que je rentrerai peut-être à 3h. Si à 3h30 je ne suis pas ici, c'est que je serai allé dîner à Pavlovsk, chez la générale Epanchine. » Le prince se décida à attendre, et, pour tuer le temps, se fit servir à dîner. À 3h30, et même à 4h, Kolia n'était pas encore de retour. Le prince quitta l'hôtel, et, machinalement, se mit à aller tout droit devant lui. La journée était splendide, comme il arrive parfois à Pétersbourg au commencement de l'été. Pendant quelque temps, Mnuchkine se promena sans but. Il ne connaissait pas bien la ville. Quelquefois, il s'arrêtait dans un carrefour, sur une place, sur un pont. À un moment donné, il entra dans une confiserie pour s'y reposer un peu. Parfois, il examinait les passants avec beaucoup de curiosité, mais le plus souvent, il ne faisait attention à personne et ne remarquait même pas le chemin qu'il suivait. L'esprit inquiet, douloureusement tendu, il éprouvait en même temps un besoin extraordinaire de solitude. Loin de tenter aucun effort pour se soustraire à ce supplice moral, il voulait être seul pour s'y abandonner passivement. Il refusait avec dégoût de résoudre les questions qui surgissaient dans son âme et dans son cœur. « Eh bien, est-ce que tout cela est ma faute ?» murmurait-il à part soi, sans presque avoir conscience de ses paroles. À 6h, le prince se trouva à la gare du chemin de fer de Tsarskoye Selo. La solitude lui était bientôt devenue insupportable. Un élan passionné emportait maintenant son cœur, et durant un instant, ce fut comme une vive clarté qui illumina les ténèbres au milieu desquelles s'agitait son âme. Il prit un billet pour Pavlovsk. Son impatience de partir était extrême. Mais sans doute quelque chose le poursuivait, qui était une réalité et non une imagination, comme peut-être il inclinait à le croire. Au moment où il allait monter en wagon, il jeta soudain le billet qu'il venait de prendre. Puis, troublé et pensif, il sortit de la gare. Quelque temps après, dans la rue, un souvenir lui revint brusquement à l'esprit. Il acquit la subite conscience d'une occupation à laquelle il se livrait depuis longtemps déjà, mais dont il ne s'était pas aperçu jusqu'alors. Plusieurs heures auparavant, à la balance déjà, ou peut-être même avant d'y arriver, il s'était tout d'un coup mis à chercher quelque chose autour de lui. Ensuite, il n'y avait plus pensé. Cet oubli avait duré longtemps, une demi-heure, et voilà que de nouveau, il se surprenait, promenant de tous côtés des regards curieux et inquiets. Mais, comme il venait de constater en lui ce phénomène morbide et tout à fait inconscient jusqu'alors, un autre souvenir très intéressant pour le prince se réveilla soudain dans sa mémoire. Il se rappela qu'au moment où il avait remarqué qu'il cherchait toujours quelque chose autour de lui, il se trouvait sur le trottoir, devant la fenêtre d'un boutiquier, et examinait avec une curiosité extrême un des articles mis à l'étalage. À présent, il voulait absolument vérifier l'exactitude de ce souvenir. Était-il, en effet, tout à l'heure, 5 minutes auparavant peut-être, devant la fenêtre de cette boutique? N'avait-il pas rêvé cela ou fait quelque confusion? La boutique existait-elle réellement, ainsi que la marchandise qu'il croyait y avoir vue? Le fait est que le prince se sentait aujourd'hui dans un état particulièrement maladif, analogue à celui qui autrefois précédait ses attaques d'épilepsie. Il savait que, durant cette période avant-courrière de l'accès, il était extraordinairement distrait, et que souvent même il confondait les choses et les personnes, s'il ne les fixait pas avec un effort spécial d'attention. Mais il y avait un motif particulier qui le poussait à s'assurer de la réalité du fait. Parmi les articles mis en montre à la fenêtre de la boutique, se trouvait un objet que le prince avait examiné. Il l'avait même évalué 60 kopecks, il se le rappelait, nonobstant le trouble et le désarroi de ses idées. Par conséquent, si cette boutique existait, et si la chose en question figurait réellement à l'étalage, c'était proprement cette chose qui avait décidé le prince à s'arrêter. Il fallait donc qu'elle eût pour lui un intérêt bien vif, puisqu'elle avait captivé son attention au moment même où il sortait de la gare, en proie à une agitation si pénible. Il marchait en regardant à droite avec une sorte d'angoisse. L'impatience et l'inquiétude faisaient battre son cœur. Mais voici cette boutique. Il en était déjà à 500 pas lorsqu'il avait eu l'idée de rebrousser chemin. Voici également cet objet de 60 kopecks. Sans doute, il ne vaut pas plus, se dit encore le prince en le revoyant, et il se mit à rire. Mais c'était une gaieté hystérique. Il se sentait fort oppressé. À présent, il avait le souvenir très net qu'ici même, étant debout devant cette fenêtre, il s'était brusquement retourné, comme tantôt, quand il avait surpris sur lui les yeux de Rogojin. Après s'être assuré qu'il ne s'était pas trompé, ce dont il n'avait jamais douté d'ailleurs, il s'éloigna aussitôt de la boutique. Tout cela demandait à être examiné sans délai. Il était clair maintenant qu'à la gare, le prince n'avait pas non plus été le jouet d'une illusion, qu'il lui était arrivé quelque chose de très réel, et que cet incident se rattachait à l'objet de son inquiétude précédente. Mais, cette fois encore, un insurmontable sentiment de dégoût prit le dessus dans l'âme du prince. Il ne voulut réfléchir à rien, et donna un tout autre cours à ses pensées. Il songea notamment à un phénomène qui précédait ses attaques d'épilepsie, lorsque celle-ci se produisait à l'état de veille. Au milieu de l'abattement, du marasme mental, de l'anxiété qu'éprouvait le malade, il y avait des moments où son cerveau s'enflammait tout à coup, pour ainsi dire, et où toutes ses forces vitales atteignaient subitement un degré prodigieux d'intensité. La sensation de la vie, de l'existence consciente, était presque décuplée dans ces instants rapides comme l'éclair. Une clarté extraordinaire illuminait l'esprit et le cœur. Toutes les agitations se calmaient. Tous les doutes, toutes les perplexités se résolvaient d'emblée en une harmonie supérieure, en une tranquillité sereine et joyeuse, pleinement rationnelle et motivée. Mais ces moments radieux n'étaient encore que le prélude de la seconde finale, celle à laquelle succédait immédiatement l'accès. Cette seconde, assurément, était inexprimable. Quand, plus tard, rendu à la santé, le prince réfléchissait là-dessus, il se disait souvent « Ces instants fugitifs où se manifeste la plus haute conscience de soi-même, et par conséquent aussi la vie la plus haute, ne sont dus qu'à la maladie, à la rupture des conditions normales. Et s'il en est ainsi, il n'y a pas là de vie supérieure, mais, au contraire, une vie de l'ordre le plus bas. » Cela pourtant ne l'empêchait pas d'aboutir à une conclusion des plus paradoxales. Qu'importe que ce soit une maladie, une tension anormale, si le résultat même, tel que, revenu à la santé, je me le rappelle et l'analyse, renferme au plus haut degré l'harmonie et la beauté. Si dans cette minute j'ai une sensation inouïe, insoupçonnée jusqu'alors, de plénitude, de mesure, d'apaisement, de fusion, dans l'élan d'une prière, avec la plus haute synthèse de la vie. Ce galimatia paraissait au prince parfaitement compréhensible et n'avait d'autre tort à ses yeux que de rendre trop faiblement sa pensée. Qu'il y eût là, en effet, beauté et prière, que ce fût réellement la plus haute synthèse de la vie, il ne pouvait ni en douter, ni même admettre sur ce point la possibilité d'un doute. Mais n'avait-il pas, dans ce moment, des visions analogues aux rêves fantastiques et abrutissants que procure l'ivresse du haschich, de l'opium ou du vin? Il pouvait sainement juger de cela lorsque l'état maladif avait cessé. Ces instants ne se caractérisaient, pour les définir d'un mot, que par l'extraordinaire accroissement du sens intime. Si, dans cette seconde-là, c'est-à-dire dans le dernier moment de conscience qui précédait l'accès, le malade pouvait se dire clairement et en connaissance de cause « Oui, pour ce moment, on donnerait toute une vie. » Sans doute ce moment, à lui seul, valait toute une vie. Quant à la partie dialectique de sa conclusion, le prince en faisait bon marché. Il voyait trop bien que la conséquence évidente de ces minutes supérieures, c'était l'hébétude, l'obscurcissement des facultés, l'idiotisme. Là-dessus, bien entendu, point de contestation possible. Sa conclusion, c'est-à-dire le jugement qu'il portait sur cette minute, renfermait à coup sûr une erreur. Mais la réalité de la sensation ne laissait pas de le troubler un peu. Quoi de plus insolent qu'un fait? Or, le fait avait lieu. Durant cette seconde-là, le prince s'avouait à lui-même que, par le bonheur immense et pleinement senti dont elle était remplie, cette seconde valait toute une existence. « Dans ce moment, » disait-il un jour à Rogojin, du temps où il se voyait fréquemment à Moscou, « dans ce moment, il me semble que je comprends le mot extraordinaire de l'apôtre. Il n'y aura plus de temps. » Et il ajoutait avec un sourire, « C'est sans doute à cette même seconde que faisait allusion l'épileptique Mahomet quand il disait qu'il visitait toutes les demeures d'Allah en moins de temps qu'il n'en fallait à sa cruche d'eau pour se vider. » Oui, à Moscou, il avait eu de fréquents rapports avec Rogojin, et ce n'avait pas été là le seul sujet de leurs entretiens. Rogojin a dit tantôt que j'avais été alors un frère pour lui. Il l'a dit aujourd'hui pour la première fois, pensa le prince à part soi. Il songeait à cela, assis sur un banc, sous un arbre, dans le jardin d'été. Il était environ 7 heures. La solitude régnait dans le jardin. La température étouffante présageait un orage. La disposition contemplative dans laquelle se trouvait alors le prince n'était pas sans charme pour lui. Il attachait son esprit à chaque objet extérieur, et cela lui plaisait. Il s'efforçait toujours d'oublier quelque chose, d'échapper à l'idée du présent, mais, au premier regard jeté autour de lui, il retrouvait immédiatement sa sombre pensée, la pensée qu'il aurait tant voulu écarter. Il se souvint que tantôt, en dînant au tractir, il avait causé avec le garçon d'un assassinat fort étrange qui avait été commis récemment et dont tout le monde s'entretenait. Mais à peine s'était-il rappelé cela, qu'un nouveau phénomène se produisit brusquement en lui. C'était un désir violent, inéluctable, une sorte de tentation contre laquelle sa volonté n'avait aucune force. Il se leva du banc, quitta le jardin et prit la direction de la Petersburgskaya. Tantôt, sur le quai de la Neva, il avait prié un passant de lui indiquer ce quartier. On lui avait montré le chemin pour y aller, mais alors il n'y avait pas été. D'ailleurs, il savait qu'il était inutile de faire cette course aujourd'hui. Il avait depuis longtemps l'adresse. Il pouvait facilement trouver la maison de la parente de Lebedev, mais il était presque sûr qu'elle ne serait pas là. Elle est assurément allée à Pavlovsk, autrement Kolia aurait laissé un mot à la balance, comme c'était convenu. Si donc il se rendait là maintenant, ce n'était sans doute pas pour la voir. Un autre aimant l'attirait. Une curiosité sombre, poignante. Il lui était venu subitement à l'esprit une nouvelle idée. Mais pour lui, c'était déjà beaucoup que de marcher et de savoir où il allait. Au bout d'une minute, il cheminait sans presque remarquer la route qu'il suivait. Creuser davantage sa subite idée était tout à coup devenu pour le prince une tâche répugnante et presque impossible. Il observait avec un douloureux effort d'attention tout ce qui s'offrait à ses yeux. Il regardait le ciel, la Neva. Rencontrant un petit enfant, il se mit à lui parler. Peut-être aussi l'état épileptique s'accusait-il de plus en plus chez lui. L'orage qui se préparait depuis longtemps semblait sur le point d'éclater, et déjà le tonnerre s'était fait entendre. L'air était extrêmement lourd. Comme on est quelquefois poursuivi par la fatigante réminiscence d'un motif musical, à présent, le prince était sans cesse obsédé par l'image du neveu de Lébédef qu'il avait vu tout à l'heure. Bizarre association d'idées, il se représentait toujours le jeune homme sous l'aspect de l'assassin dont Lébédef lui-même avait parlé tantôt en présentant son neveu aux visiteurs. Oui, tout dernièrement encore, Mnuchkine avait lu quelque chose au sujet de cet assassin. Depuis son arrivée en Russie, il avait vu dans les journaux, ou entendu raconter, beaucoup d'histoires de ce genre. Il suivait assidûment tout cela. Et tantôt, la conversation qu'il avait eue avec le garçon du restaurant, et qui l'avait tant intéressé, roulait justement sur l'assassinat des Gemarines. Le garçon avait été de son avis, il se le rappelait. Il se rappelait aussi le garçon. Ce n'était pas un imbécile, mais un homme posé et circonspect. Du reste, Dieu sait ce qu'il est. Dans un pays qu'on ne connaît pas, il est difficile de déchiffrer les gens. Toutefois, il commençait à croire passionnément à l'âme russe. Oh ! Durant ces 6 mois, il avait fait quantité de découvertes qui avaient été pour lui des surprises inouïes. Mais l'âme d'autrui est un mystère, et l'âme russe est pleine de ténèbres. Par exemple, il a longtemps pratiqué Rogojin. Une amitié étroite, fraternelle, les unit l'un à l'autre. Eh bien, connaît-il Rogojin? Mais du reste, quel chaos, quelle absurdité, quelle laideur il y a parfois dans tout cela. Et quel vilain être que ce neveu de Lébédef! Mais à quoi vais-je penser? Continuait à songer le prince. Est-ce qu'il est l'auteur de ce crime? Est-ce qu'il a assassiné ces 6 personnes? Il me semble que je confonds. Comme c'est étrange, la tête me tourne. Mais quel sympathique et charmant visage que celui de la fille aînée de Lébédef, celle qui tenait un enfant sur ses bras. Quelle physionomie innocente et presque enfantine. Quel rire presque enfantin. C'est étrange que je ne me sois pas rappelé plus tôt ce visage. Il m'était à peu près sorti de la mémoire. Mais ce qu'il y a de positif, ce qui est sûr comme 2 et 2 font 4, c'est que Lébédef adore aussi son neveu. Pourquoi, du reste, se pressait-il tant de les juger? Pouvait-il, après une première visite, prononcer ainsi sur eux? Voilà qu'aujourd'hui, Lébédef lui avait offert une énigme. S'attendait-il, en effet, à trouver un pareil homme dans Lébédef? Est-ce qu'auparavant, il connaissait Lébédef sous cet aspect? Lébédef et la comtesse du Barry. Seigneur! Si Rogojin tue, du moins ce ne sera pas une chose aussi étourdissante, on n'y verra pas un tel chaos. Un instrument fabriqué sur commande, d'après un dessin, et 6 personnes mises en état de délire. Y a-t-il chez Rogojin un instrument qu'il ait fait faire d'après un dessin? Mais est-ce qu'il est décidé que Rogojin assassinera? S'écria le prince, pris d'un tremblement soudain. N'est-ce pas un crime, une bassesse de ma part, que de hasarder avec cette cynique franchise une semblable conjecture ? Poursuivit-il, tandis que le rouge de la honte couvrait son visage. Il restait stupéfait, comme cloué au sol. Tout lui revenait en même temps à la mémoire. Les deux incidents survenus tantôt, l'un à la gare de Pavlovsk, l'autre à celle de Nikolaïev. La question que Rogojine lui avait carrément adressée au sujet des yeux, la croix de Rogojine qu'il portait maintenant sur lui, la bénédiction que Rogojine avait demandée pour lui à sa mère, et enfin, sur l'escalier, cet embrassement chaleureux, cette renonciation suprême. Et après tout cela, le prince s'était surpris, cherchant continuellement quelque chose autour de lui. Il s'était occupé de cette boutique, de cet objet. Quelle bassesse ! Et après tout cela, il s'en allait maintenant là-bas avec un but particulier, avec une idée subite. Rempli de désespoir et de douleur, il voulut immédiatement revenir sur ses pas, retourner chez lui à son hôtel. Il fit même volte-face et commença à rebrousser chemin. Mais au bout d'une minute, il s'arrêta, réfléchit, puis se remit à marcher dans la direction première. D'ailleurs, il était déjà dans la Petersbourgskaya. Il se trouvait près de la maison. Mais maintenant, il n'y va plus avec le même but que tout à l'heure, avec une idée particulière. Et comment avait-il pu en être ainsi ? Oui, sa maladie revient, cela est incontestable. Il aura peut-être une attaque dans la journée. C'est l'accès qui a amené cette éclipse intellectuelle, cette idée. À présent, les ténèbres sont dissipées, le démon est chassé, les doutes n'existent plus, la joie est dans son cœur. Et il ne l'a pas vue depuis si longtemps, il a besoin de la voir, et oui. Il voudrait à présent rencontrer Rogojine. Il le prendrait par le bras et ils iraient ensemble. Son cœur est pur. Est-ce qu'il est le rival de Rogojine ? Demain, il ira lui-même dire à Rogojine qu'il l'a vu. Il a volé à Pétersbourg, comme disait tantôt Rogojine, uniquement pour la voir. Peut-être bien la trouvera-t-il. Il n'est pas absolument sûr qu'elle soit à Pavlovsk. Oui. Il faut que maintenant leur situation respective soit nettement établie, qu'il n'ait plus de mystère l'un pour l'autre, qu'il n'y ait plus de ces renoncements sombres et passionnés comme celui de Rogojine tantôt, et que tout cela se fasse librement et au grand jour. Est-ce que l'âme de Rogojine ne peut supporter la lumière ? Il dit qu'il ne l'aime pas ainsi, qu'en lui il n'y a pas de pitié, aucune compassion semblable. Il est vrai qu'ensuite il a ajouté « Ta compassion est peut-être plus forte encore que mon amour. » Mais il se calomnie. Rogojine s'adonne à la lecture. Est-ce que ce n'est pas de la compassion, ou du moins un commencement de compassion ? La seule présence de ce livre ne prouve-t-elle pas qu'il sait pleinement ce qu'il est par rapport à elle ? Et son récit tantôt ? Non, il y a là autre chose, et plus qu'un entraînement passionnel. D'ailleurs, a-t-elle un visage à n'inspirer que la passion ? Et même, à présent, ce visage peut-il l'inspirer ? Il provoque une impression de souffrance, il saisit l'âme tout entière, il... Et un souvenir douloureux, poignant, traversa soudain le cœur du prince. Oui, poignant. Il se rappela combien, dernièrement encore, il avait souffert quand, pour la première fois, il avait remarqué en elle des symptômes de folie. Alors, c'était presque du désespoir qu'il avait éprouvé. Et comment avait-il pu la laisser partir lorsqu'elle l'avait quitté pour revenir à Rogojine ? Il aurait dû courir lui-même après elle, au lieu d'attendre qu'on lui donnât des nouvelles de la fugitive. Mais est-il possible que Rogojine ne se soit pas encore aperçu qu'elle est folle ? Rogojine explique tout par d'autres causes, par la passion. Mais quelle jalousie insensée ! Que signifie le projet dont il a parlé tantôt ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Le prince rougit tout à coup, et quelque chose comme un frisson agita son cœur. Pourquoi, du reste, penser à cela? Ici, il y a de la folie des deux côtés. Un amour passionné du prince pour cette femme pourrait à peine se concevoir. Ce serait presque de l'inhumanité, de la barbarie. Oui, oui. Non, Rogojine se calomnie. Il a un grand cœur, capable de souffrir et de compatir. Quand il saura toute la vérité, quand il aura reconnu combien est à plaindre cette créature détraquée, privée de raison, ne lui pardonnera-t-il pas alors tout le passé, tout ce qu'il a souffert? Ne deviendra-t-il pas son serviteur, son frère, son ami, sa providence? La compassion sera pour Rogojine lui-même une école où il se formera. La compassion est la principale et peut-être la seule loi de l'existence humaine. Oh, quel tort impardonnable il s'est donné! Combien il a été bassement injuste envers Rogojine! Non, ce n'est pas l'âme russe qui est pleine de ténèbres, c'est la sienne qui est ténébreuse, s'il a pu imaginer une telle abomination. Pour quelques paroles chaudes et cordiales, dites à Moscou, Rogojine l'appelle son frère, et lui? Mais c'est l'effet de la maladie, d'un délire. Tout cela va se dissiper. De quel air sombre Rogojine a dit tantôt qu'il perdait la foi. Cet homme doit cruellement souffrir. Il aime, dit-il, à regarder ce tableau. Non, il ne le contemple pas volontiers, mais il éprouve sans doute un besoin de le contempler. Rogojine n'est pas seulement une âme passionnée, c'est un lutteur. Il veut reconquérir de vive force sa foi perdue. C'est maintenant pour lui un martyr que d'en être privé. Oui, croire à quelque chose, croire à quelqu'un. Et qu'il est étrange pourtant, ce tableau de Holbein. Ah, voici la rue. Tiens, ce doit être cette maison-ci, numéro 16. Maison de la veuve du secrétaire de collège Philisoff. C'est ici. Le prince sonna et demanda Nastasia Philippovna. La maîtresse du logis lui répondit elle-même que Nastasia Philippovna était partie dans la matinée pour se rendre à Pavlovsk, chez Daria Alexievna, et que peut-être elle y resterait plusieurs jours. Madame Philisoff était une petite femme de 40 ans. Elle avait un visage en lame de couteau et des yeux perçants dont le regard dénotait l'astuce. Quand, avec une certaine apparence de mystère, elle demanda le nom du visiteur, celui-ci refusa d'abord de le donner, mais presque aussitôt après il se ravisa et insista vivement pour qu'on remît son nom à Nastasia Philippovna. Ces instances attirèrent l'attention particulière de Madame Philisoff, et elle donna à ses traits une expression qui semblait vouloir dire « Ne vous inquiétez pas, j'ai compris ». Évidemment, le nom du prince avait produit sur elle une impression très forte. Le visiteur la regarda d'un air distrait, puis il se retira et reprit le chemin de son hôtel. Mais en sortant de chez Madame Philisoff, il n'était plus le même que quand il avait sonné à sa porte. Un changement extraordinaire, et pour ainsi dire instantané, venait encore de s'opérer en lui. De nouveau, il cheminait pâle, faible, souffrant, agité. Ses genoux fléchissaient, et un sourire vague, égaré, flottait sur ses lèvres blêmes. Son idée subite avait été tout d'un coup confirmée et justifiée. De nouveau, il croyait à son démon. Mais était-elle confirmée? Mais était-elle justifiée? Pourquoi encore ce tremblement, cette sueur froide, et dans son âme, cette obscurité glaciale? Parce que tout à l'heure encore, il avait aperçu ses yeux? Mais il avait quitté le jardin d'été uniquement pour les voir. C'était là son idée subite. Il tenait absolument à s'assurer que là, près de cette maison, il rencontrerait les yeux de tantôt. Voilà le désir fiévreux qui l'avait poussé à faire cette course. Et puisqu'il s'attendait à les voir, pourquoi donc leur présence l'avait-elle saisi, bouleversé à ce point? Oui, c'étaient les mêmes yeux, à présent plus moyen d'en douter, qui, le matin, dans la foule, lui avaient lancé un regard de flamme au moment où il descendait du train à la gare de Nikolaïev. Les mêmes, tout à fait les mêmes, que quelques heures plus tard, chez Rogojine, il avait surpris, fixé sur lui par derrière. Tantôt, Rogojine avait nié. À qui appartenaient donc ses yeux ? Avait-il demandé en grimaçant un sourire. Tout à l'heure encore, à la gare du chemin de fer de Tsarskoïe Selo, lorsque le prince était sur le point de monter en wagon pour se rendre auprès d'Aglaé, il avait soudain revu ses yeux, pour la troisième fois depuis le commencement de la journée. Alors, il avait eu une terrible envie de s'avancer vers Rogojine et de lui dire à qui appartenaient les yeux. Mais il s'était enfui et perdu de la gare, et n'avait recouvré ses esprits que devant la boutique d'un coutelier, dans l'instant où il évaluait à 60 kopecks un couteau avec un manche en bois de serre. Un démon étrange, épouvantable, s'était définitivement attaché à lui et ne voulait plus le lâcher. Tandis que le prince rêvait, assis sous un tilleul dans le jardin d'été, ce démon lui avait murmuré tout bas. Si Rogojine, depuis le matin, s'acharne ainsi à te suivre et à épier chacune de tes démarches, à coup sûr en constatant que tu n'as pas pris le train de Pavlovsk, ce qui sans doute aura été une découverte terrible pour lui, il ne manquera pas de se rendre là, à cette maison, dans la Petersbourgskaya. Il ira certainement t'y guetter, toi qui, ce matin même, lui as donné ta parole d'honneur que tu ne la verrais pas et que tu n'étais pas venu à Pétersbourg pour cela. » Là-dessus, le prince s'était précipitamment dirigé vers cette maison. Et quoi d'étonnant qu'il ait, en effet, rencontré là Rogojine. Il n'avait vu qu'un homme malheureux, dans une disposition d'esprit fort sombre, mais trop facile à comprendre. Bien plus, ce malheureux ne se cachait pas cette fois. Oui, tantôt Rogojine avait nié, menti, mais à la gare de Tsarskoïe Selo, il avait à peine dissimulé sa présence. Si l'un des deux s'était dérobé, c'était plutôt le prince que Rogojine. Et maintenant, près de la maison, celui-ci se tenait à 50 pas de côté. Les bras croisés, il attendait, debout, sur l'autre trottoir. On ne pouvait guère ne pas le voir, et il semblait s'être mis exprès en évidence. Il était là, comme un accusateur, comme un juge, et non comme... Et non comme quoi? Mais pourquoi donc, au lieu de s'avancer vers lui, le prince s'était-il éloigné sans avoir l'air de le remarquer, quoique leurs yeux se fussent rencontrés? Oui, leurs yeux s'étaient rencontrés. Les deux hommes avaient échangé un regard. Est-ce que tantôt lui-même ne voulait pas le prendre par le bras et aller là avec lui? Lui-même ne se proposait-il pas d'aller le lendemain lui dire qu'il avait été chez elle? Est-ce que tout à l'heure, arrivé à mi-chemin de la maison, il n'avait pas triomphé de son démon et senti une joie soudaine inonder son âme? Ou bien y avait-il, en effet, aujourd'hui chez Rogojine, c'est-à-dire dans l'ensemble de ses paroles, de ses mouvements, de ses actes, de ses regards, quelque chose qui fût de nature à justifier les affreux pressentiments du prince et les odieuses insinuations de son démon? Ce je ne sais quoi qui saute aux yeux, mais qu'il est difficile d'analyser et de raconter, dont on ne peut se rendre un compte exact, et qui pourtant impressionne au point de déterminer la conviction. Quelle conviction ! Oh ! Combien la monstruosité de cette conviction faisait souffrir le prince, et quels reproches il s'adressait à lui-même. Dis donc, si tu l'oses, en quoi elle consiste? Ne cessait-il de se répéter avec un accent de défi? Formule toute ta pensée, aie le courage de l'exprimer nettement, clairement, sans détour. Oh, je suis un misérable! Poursuivit-il, indigné, rouge de honte. Comment désormais pourrais-je lever les yeux sur cet homme? Oh, quelle journée! Oh Dieu, quel cauchemar! Ainsi se désolait le prince en revenant de la Pétersbourgskaya. Arrivé au terme de cette longue et pénible route, il éprouva soudain un violent désir, celui d'aller à l'instant chez Rogojine. Quand ce dernier rentrerait, le prince l'embrasserait avec confusion, avec larmes. Il lui dirait tout, et ce serait une affaire finie. Mais déjà, il était près de son hôtel. Combien lui avait déplu tantôt cet hôtel, ses corridors, toute cette maison, sa chambre. À première vue, il avait pris tout cela en aversion. Et plusieurs fois, durant la journée, son cœur s'était soulevé à la pensée qu'il lui faudrait y revenir. Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà que, comme une femme malade, je croise aujourd'hui à toutes sortes de pressentiments, se dit-il. Et tandis qu'il se moquait ainsi de lui-même, il s'arrêta devant la grande porte. Parmi les circonstances de la journée, il y en avait une surtout qui en ce moment occupait son esprit. Mais maintenant il l'envisageait avec sang-froid, dans la plénitude de son bon sens, et non plus sous l'influence d'un cauchemar. Il s'était tout à coup rappelé le couteau qu'il avait remarqué tantôt sur la table de Rogojine. Mais pourquoi donc, au fait, Rogojine n'aurait-il pas sur sa table autant de couteaux que bon lui semble ? Fit le prince, profondément étonné de ses soupçons. Il éprouva la même surprise en songeant à sa station devant la boutique du coutelier. « Mais enfin, quel lien peut-il y avoir ? » s'écria-t-il, et il n'acheva pas. Suffoqué de honte, presque désespéré, il resta cloué à sa place, tout près de la porte. C'est ce qui arrive parfois aux gens. Un souvenir insupportable, humiliant surtout, en se réveillant, a pour effet ordinaire de paralyser momentanément chez eux la faculté locomotrice. « Oui, je suis un homme sans cœur et un lâche !» répéta-t-il avec irritation. Et il fit un brusque mouvement pour entrer, mais il s'arrêta de nouveau. Sous cette grande porte, où il ne faisait jamais bien clair, régnait alors une obscurité profonde. En même temps que le prince arrivait devant la maison, le nuage orageux qui couvrait le ciel avait crevé et la pluie tombait à torrents. Lorsque Muishkin, resté un instant immobile, voulut s'arracher de sa place, il aperçut tout à coup, dans la pénombre, un homme qui se trouvait du côté intérieur de la porte, tout à l'entrée de l'escalier. Cet homme semblait attendre quelque chose, mais il disparut immédiatement. Le prince n'eut pas le temps de l'examiner, et sans doute il n'aurait pu dire avec certitude qui c'était. D'ailleurs, dans un hôtel, il y a un continuel va-et-vient de gens qui entrent et qui sortent. Mais aussitôt, il fut persuadé, entièrement, invinciblement persuadé, qu'il avait reconnu cet homme, que c'était Rogojine. Au bout d'un instant, le prince, dont le cœur défaillait, s'élança à sa suite dans l'escalier. « Tout va être éclairci » murmura-t-il à part soi, avec une conviction étrange. L'escalier, qu'il montait si précipitamment, conduisait au corridor du premier et du second étage, le long desquels étaient situées les chambres de l'hôtel. Comme dans toutes les vieilles maisons, c'était un escalier de pierre, étroit et sombre, qui tournait autour d'un gros pilier. Au niveau du premier étage, ce pilier présentait un enfoncement, une sorte de niche, large d'un pas environ et d'une profondeur moitié moindre. Un homme pourtant aurait pu s'y introduire. Malgré l'obscurité, le prince, en arrivant sur le palier, s'aperçut tout de suite que quelqu'un était caché dans cette niche. Il voulut passer à côté sans regarder à droite, mais, après avoir fait un pas, il ne put s'empêcher de retourner la tête. Les deux yeux de tantôt, les mêmes, s'offrirent soudain à son regard. L'homme qui se cachait là avait aussi fait un pas hors de la niche. Pendant une seconde, tous deux restèrent face à face, si rapprochés qu'ils se touchaient presque. Tout à coup, le prince saisit Rogojine par les épaules et le ramena en arrière vers l'escalier pour mieux examiner ses traits. Un éclair s'alluma dans les yeux de Parfen Semenitch. Une rage forcenée se manifesta sur son visage, défiguré par un affreux sourire. Sa main droite se leva, brandissant quelque chose qui brillait dans l'obscurité. Le prince ne pensa pas à l'arrêter. Autant qu'il s'en souvint plus tard, il se contenta de crier « Parfen, je ne le crois pas !» Puis il lui sembla voir tout à coup quelque chose s'entr'ouvrir devant lui. Une lumière intérieure extraordinaire éclaira son âme. Cela dura peut-être une demi-seconde. Néanmoins, le prince garda un souvenir très net du commencement, des premiers cris qui s'échappèrent spontanément de sa poitrine et que tous ses efforts eussent été impuissants à contenir. Ensuite, la conscience s'éteignit en lui. C'était un retour de la maladie, qui depuis fort longtemps déjà l'avait quitté. On sait avec quelle soudaineté se produisent les attaques d'épilepsie. En un clin d'œil, le visage se décompose effroyablement, l'altération du regard est surtout frappante. Des convulsions s'emparent de tout le corps et crispent tous les muscles de la face. De la poitrine sortent des cris horribles, inimaginables, ne ressemblant à rien. Des cris qui n'ont plus aucun rapport avec la voix humaine. En entendant ces hurlements, il est très difficile, sinon impossible, de se figurer que le malade lui-même les profère. On croirait plutôt qu'ils proviennent d'un autre être qui se trouve au-dedans de ce malheureux. Bref, en présence d'un homme affligé du mal caduque, beaucoup de gens éprouvent une terreur indicible et même quelque peu mystique. Ce fut sans doute cette impression d'épouvante qui arrêta soudain le bras de Rogojin, déjà levé sur le prince. Celui-ci tomba tout à coup à la renverse et roula le long de l'escalier en se cognant la nuque contre les marches de pierre. À cette vue, et sans comprendre encore ce qui venait de se passer, Rogojin descendit les degrés 4 à 4. Arrivé en bas, il tourna l'obstacle humain qui lui barrait le passage et, comme un fou, s'élança hors de l'hôtel. Secoué par de violentes convulsions, le corps du malade avait roulé jusqu'au bas de l'escalier, qui, du premier étage au rez-de-chaussée, ne comptait pas plus de 15 marches. Au bout de 5 minutes, on aperçut le prince gisant sur le sol, et un rassemblement se forma autour de lui. Comme la tête avait abondamment saigné, on se demanda d'abord si l'on était en présence d'un accident ou d'un crime. Toutefois, plusieurs devinèrent bientôt qu'il s'agissait d'un cas d'épilepsie. Une des personnes de la maison reconnut dans le prince un voyageur arrivé le matin à l'hôtel. À la fin, la lumière se fit tout entière grâce à une heureuse circonstance. Après avoir promis d'être à la balance pour 4 heures, Kolia Ivulgin s'était néanmoins rendu à Pavlovsk, mais il refusa de dîner chez la générale Epanchin et, revenu à Pétersbourg, se hâta d'aller à la balance, où il arriva vers 7 heures du soir. Le mot laissé par le prince lui ayant appris que ce dernier était en ville, il courut immédiatement à l'adresse indiquée sur le billet. Lorsqu'on lui eut dit à l'hôtel que le prince était sorti, Kolia descendit au buffet, où il attendit le retour de Mushkin en prenant du thé et en écoutant jouer de l'orgue. Sur ces entrefaites, le hasard voulut qu'il entendît parler autour de lui d'une attaque survenue à quelqu'un. Mû par un pressentiment, il alla aussitôt à l'endroit où se trouvait le malade, et il reconnut le prince. Sur le champ furent prises les mesures nécessaires. On transporta le prince dans sa chambre. Il revint à lui, mais il fut assez longtemps sans recouvrer toute sa connaissance. Le docteur, appelé pour examiner les plaies de la tête, prescrivit une fomentation et déclara que ses contusions n'avaient absolument rien de dangereux. Une heure après, le prince commençant à avoir une conscience assez nette de ce qui l'entourait, Kolia le fit monter en voiture et l'emmena chez Lebedev. L'employé reçut le malade avec les plus grandes démonstrations de dévouement et de respect. Il hâta même à cause de lui le départ pour la campagne. Le surlendemain, tout le monde se rendit à Pavlovsk. Chapitre 6. La villa de Lebedev était petite, mais commode et même jolie. La partie destinée à être mise en location avait été ornée avec un soin particulier. Sur la terrasse assez vaste qui s'étendait devant la maison, on voyait une rangée d'orangers, de citronniers et de jasmins plantés dans de grandes caisses de bois peintes en vert. Ces arbres, suivant Lebedev, donnaient à sa propriété un aspect vraiment enchanteur. Quelques-uns se trouvaient déjà là lorsqu'il avait fait l'acquisition de l'immeuble. Charmé de l'effet qu'il produisait, il s'empressa d'en acheter d'autres pour les joindre au premier. Quand les caisses contenant ces végétaux exotiques eurent été amenées à la villa et mises en place, Lebedev sortit à plusieurs reprises de chez lui pour aller dans la rue jouir du coup d'œil. Et chaque fois, il grossissait mentalement la somme qu'il comptait demander à son futur locataire. Dans l'état d'affaissement physique et moral où le prince se trouvait, cette maison de campagne lui plut beaucoup. Du reste, le jour du départ pour Pavlovsk, c'est-à-dire le surlendemain de l'accès, il avait à peu près recouvré les apparences de la santé, quoique, en fait, il se sentit encore souffrant. Tous les visages qui l'entouraient depuis 3 jours lui causaient une impression agréable. Il était bien aise de voir non seulement Kolia, devenu son inséparable, mais toute la famille de Lebedev, sauf le neveu qui avait disparu de la maison, et Lebedev lui-même. Ce fut aussi avec plaisir qu'avant de quitter Pétersbourg, il reçut la visite du général Ivolgin. Il était déjà tard quand on arriva à Pavlovsk. Ce même jour, néanmoins, plusieurs personnes vinrent voir le prince et se réunirent sur la terrasse de la villa. Gania se présenta le premier. Le prince eut peine à le reconnaître, tant le jeune homme était changé et maigri. Ensuite se montrèrent Varia et Ptidzin, qui étaient aussi en villégiature dans la localité. Quant au général Ivolgin, il ne bougeait pour ainsi dire pas de chez les Lebedev, et semblait avoir transféré en même temps que lui ses pénates à Pavlovsk. Lebedev l'empêchait autant que possible d'approcher du prince et s'efforçait de le tenir près de lui. L'employé parlait à Ardalion Alexandrovitch comme à un ami. On aurait pu les prendre pour de vieilles connaissances. Le prince remarqua durant ces 3 jours qu'ils avaient parfois de longues conversations ensemble. On les entendait souvent crier, discuter. Ils devaient même s'entretenir de matière scientifique, ce qui évidemment faisait plaisir à Lebedev. Il paraissait ne pouvoir se passer du général. Mais ce n'était pas seulement Ardalion Alexandrovitch. C'était aussi sa propre famille que Lebedev cherchait à écarter du prince depuis qu'on s'était transféré à la campagne. Sous prétexte que son locataire avait besoin de repos, il avait établi autour de lui une sorte de cordon sanitaire. En vain, Mushkin protestait contre ce luxe de précaution. Lebedev frappait du pied et s'empressait d'éloigner ses filles, sans même en excepter Viera, sitôt que celle-ci faisait mine de se diriger vers la terrasse où se trouvait le prince. D'abord, elles n'auront plus aucun respect si on leur laisse prendre tant de liberté. Et en second lieu, c'est même inconvenant pour elle, finit-il par déclarer, en réponse à une question directe du prince. Mais pourquoi donc? Répliqua ce dernier. Vraiment, toute cette surveillance que vous exercez m'assomme, et voilà tout. Seule, je m'ennuie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et vous-même, vous ne faites que m'agacer encore plus avec vos continuels mouvements de mains et vos mystérieuses allées et venues. Le fait est que Lebedev, si jaloux de protéger contre tout importun la tranquillité du malade, entrait lui-même presque à chaque instant chez le prince. Régulièrement, il commençait par entrebâiller la porte, passait sa tête par l'ouverture et parcourait des yeux la chambre, comme pour s'assurer que le prince était là, qu'il n'avait pas pris la fuite. Puis, marchant sur la pointe du pied, Lebedev s'approchait tout doucement du fauteuil de son locataire, que cette subite apparition effrayait parfois. Il ne manquait jamais de s'informer si le prince n'avait besoin de rien. Quand celui-ci, à la fin, lui disait de le laisser en repos, il obéissait silencieusement, tournait sur ses talons, et, tout en se dirigeant à pas de loup vers la porte, ne cessait d'agiter les bras comme pour faire signe que sa visite n'avait pas d'importance, qu'il ne dirait pas un mot de trop, qu'il sortait et ne reviendrait pas. Cela pourtant ne l'empêchait point de reparaître au bout de 10 minutes ou d'un quart d'heure. Kolia avait libre accès auprès du prince. Selon Lebedev, était tout à fait désolé, indigné même. Lorsque les deux amis causaient ensemble, ils passaient une demi-heure à écouter leur conversation derrière la porte. Kolia s'en aperçut et, naturellement, fit part de cette découverte au prince. « Vous vous croyez donc mon maître pour me tenir ainsi sous clé ?» dit vivement ce dernier à son propriétaire. « Du moins à la campagne, j'entends qu'il en soit autrement. Soyez persuadé que je recevrai qui je voudrai et que j'irai où il me plaira. » « Sans le plus petit doute, » répondit Lebedev en agitant les bras. Le prince le regarda fixement des pieds à la tête. « Eh bien, Loukian Timofeïlevitch, vous avez transporté ici la petite armoire que vous aviez dans votre chambre à coucher au-dessus de votre chevet ?»« Non, je l'ai laissée là. »« Pas possible !»« On ne peut pas la déplacer. Il faudrait pratiquer une brèche dans la muraille. Elle tient bien. » « Mais vous avez peut-être l'appareil ici. »« J'en ai même une meilleure. C'est même ce qui m'a décidé à acheter cette maison de campagne. »« Ah ! Qui avez-vous refusé d'introduire auprès de moi tantôt, il y a une heure ?»« C'est le général. En effet, je ne l'ai pas introduit, et il n'a pas besoin d'aller chez vous. »« Prince, cet homme, je l'estime profondément. C'est un grand homme, vous ne le croyez pas ?» « Eh bien, vous verrez, mais pourtant, vous feriez mieux, excellentissime prince, de ne pas le recevoir chez vous. »« Pourquoi cela ? Permettez-moi de vous le demander. Pourquoi aussi, Lebedev, marchez-vous maintenant sur la pointe des pieds et vous approchez-vous toujours de moi comme si vous vouliez me glisser un secret dans l'oreille ?»« je suis bas, je le sens, » reprit l'employé. Et en faisant cette réponse inattendue, il se frappait la poitrine d'un air contrit. « Mais le général ne sera-t-il pas trop hospitalier pour vous ?»« Comment trop hospitalier ?»« Oui, d'abord, il se propose d'habiter chez moi. »« Soit, mais il ne doute de rien. Il se fourre tout de suite dans la famille. »« Plusieurs fois déjà, nous avons examiné ensemble nos parentés respectives. »« Il s'est trouvé que nous étions beaux-frères. » Vous êtes aussi, paraît-il, du côté maternel, son neveu à la mode de Bretagne. Il me l'a encore expliqué hier. Si vous êtes son neveu, il en résulte, excellentissime prince, que je suis aussi votre parent. Pas encore pour cela, c'est une petite faiblesse. Mais tout à l'heure, il m'assurait que toute sa vie, depuis sa nomination au grade d'enseigne jusqu'au 11 juin de l'année dernière, il a eu chaque jour à sa table au moins 200 personnes. Finalement, il a été jusqu'à me dire qu'on ne se levait même pas de table. On dînait, on soupait et on prenait le thé pendant 15 heures consécutives. Cela a duré ainsi 30 années de suite, sans la moindre interruption. À peine prenait-on le temps de changer la nappe. Quand quelqu'un s'en allait, il était aussitôt remplacé par un autre. Les jours de fête, le général avait chez lui jusqu'à 300 convives, et il en a même eu 700 lorsque a été célébré le 1000e anniversaire de la fondation de l'Empire russe. C'est une passion, on est inquiet quand on apprend cela. Il est terrible de recevoir chez soi des gens qui font si grandement les choses. Aussi, je me demandais si un pareil homme ne serait pas trop hospitalier pour vous et pour moi. « Mais vous avez, paraît-il, les meilleures relations avec lui ?»« Des relations fraternelles. Je prends cela comme une plaisanterie. Que nous soyons beaux-frères, peu m'importe. C'est plutôt un honneur pour moi. Même à travers les 200 personnes et le millième anniversaire de l'Empire russe, je distingue en lui un homme très remarquable. Je parle sincèrement. Tout à l'heure, prince, vous disiez qu'en m'approchant de vous, j'avais l'air de vouloir vous confier un secret. Eh bien, justement, j'en ai un à vous communiquer. Une certaine personne vient de me faire savoir qu'elle désirerait beaucoup avoir une entrevue secrète avec vous. Pourquoi donc secrète? En aucune façon. J'irai moi-même chez elle. Peut-être aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout, reprit Lebedev en agitant le bras. Si elle a peur, ce n'est pas de ce que vous croyez. À propos, le monstre vient chaque jour s'informer de votre santé. Savez-vous cela? Vous le traitez trop souvent de monstre, cela m'est très suspect. Vous ne pouvez avoir aucun soupçon, aucun, répondit aussitôt Lebedev. Je voulais seulement vous dire que la personne en question n'a pas peur de lui et que sa crainte est tout autre, tout autre. Mais de quoi donc a-t-elle peur? Dites-le tout de suite, fit le prince, impatienté, en voyant les grimaces mystérieuses de son interlocuteur. C'est précisément là le secret. Et Lebedev sourit. Le secret de qui? Le vôtre. Vous-même m'avez défendu, excellentissime prince, de parler devant vous, murmura l'employé, et heureux d'avoir irrité au plus haut point la curiosité de Mushkine, il acheva brusquement. Elle a peur d'Aglaé Ivanovna. Le prince fronça le sourcil et garda le silence pendant une minute. Vraiment, Lebedev, je quitterai votre maison, dit-il tout à coup. Où sont Gabriel Ardalionovitch et les petites Zines? Chez vous? Vous les avez aussi fait entrer chez vous? Ils vont venir, et même le général les suivra. J'ouvrirai toutes les portes, et j'appellerai toutes mes filles, toutes, à l'instant, fit à voix basse Lebedev effrayé, et il courut d'une porte à l'autre en agitant les bras. Kolia se montra en ce moment sur la terrasse. Il arrivait du dehors, et il annonça qu'Elisabeth Prokofievna le suivait, accompagnée de ses trois filles. Ému de cette nouvelle, Lebedev s'approcha vivement du prince. « Faut-il ou non faire entrer les petites Zines et Gabriel Ardalionovitch? Faut-il introduire le général ? » demanda-t-il. « Pourquoi pas, tous ceux qui veulent me voir. Je vous assure, Lebedev, que dès le début vous avez mal compris ma situation. » Vous êtes dans une erreur continuelle. Je n'ai pas le plus petit motif pour me cacher à qui que ce soit, répondit gaiement le prince. En le voyant rire, Lebedev crut devoir rire aussi. Quoique extrêmement agité, l'employé éprouvait une satisfaction visible. Kolia avait dit vrai. Il précédait seulement de quelques pas les dames et Panchin. Tandis qu'elles arrivaient de la terrasse, d'autres visiteurs qui se trouvaient déjà dans la maison, mais chez Lebedev, firent aussi leur apparition. C'étaient les petites Zines, Gania et Ardalion Alexandrovitch. Il n'y avait qu'un instant que la famille Epanchin avait appris, par Kolia, la maladie du prince et son installation à la campagne. Jusqu'alors, la générale était restée dans une pénible incertitude. L'avant-veille, Ivan Fedorovitch avait communiqué aux siens la carte du prince, et il n'en avait pas fallu davantage pour persuader à Elisabeth Prokofievna que Mouichkine allait immédiatement leur faire visite à Pavlovsk. Les demoiselles eurent beau objecter qu'il n'y avait peut-être pas lieu de compter sur un tel empressement de la part d'un homme qui n'avait pas écrit un mot depuis 6 mois, et qui d'ailleurs pouvait être retenu à Pétersbourg par des affaires, ces observations ne servirent qu'à irriter la générale. Elle était prête à parier que le prince arriverait le lendemain. Au plus tard. Le lendemain, elle l'attendit pendant toute la matinée, puis pour le dîner, puis enfin pour le soir. Quand la nuit fut tout à fait venue, Elisabeth Prokofievna, prise de colère, se mit à quereller son entourage à propos de tout, sans souffler mot, naturellement, de celui qui était la vraie cause de sa mauvaise humeur. Toute la journée, elle garda le même silence au sujet du prince. Pendant le dîner, une parole imprudente d'Aglaé donna lieu à un petit incident. « Maman est fâchée parce que le prince ne vient pas !» lâcha inopinément la jeune fille. Là-dessus, le général ayant fait remarquer que ce n'était pas sa faute, Elisabeth Prokofievna se leva et sortit furieuse de la salle à manger. Enfin, vers le soir, Kolia arriva et il raconta tout ce qu'il savait concernant les aventures du prince. Au bout du compte, la générale triomphait. Néanmoins, Kolia reçut une forte semonce. « Il flâne ici des journées entières. On ne peut pas se débarrasser de lui. Et quand il devrait venir, il ne vient pas. Il aurait bien pu envoyer un mot s'il ne jugeait pas à propos de se déranger. » En s'entendant dire qu'on ne pouvait pas se débarrasser de lui, Kolia aurait volontiers pris la mouche, mais il se réserva de manifester son mécontentement une autre fois. Et même, si le mot avait été moins blessant, peut-être l'aurait-il pardonné. Tant lui plaisait l'agitation et l'inquiétude d'Elisabeth Prokofievna à la nouvelle de la maladie du prince. Elle insista longtemps sur la nécessité d'envoyer tout de suite un express à Pétersbourg et de faire venir par le premier train une célébrité médicale de première grandeur. Ses filles l'en dissuadèrent. Toutefois, elles ne voulurent pas rester en arrière de leur maman lorsque celle-ci se disposa à aller voir le malade. « Il est au lit de mort, » dit avec animation Elisabeth Prokofievna. « Et nous, ici, nous observons encore l'étiquette. Est-il ou n'est-il pas un ami de notre maison ?»« Mais il ne faut pas entrer dans l'eau sans avoir sondé le gué, » observa Aglaé. « Eh bien, n'y va pas. D'ailleurs, il vaut mieux que tu restes ici. Eugène Pavlitch va venir. Il n'y aurait personne pour le recevoir. » Après ces paroles, Aglaé, comme bien on pense, s'empressa de se joindre à sa mère et à ses sœurs, ce qui, du reste, avait toujours été son intention. Le prince Tch était venu voir Adélaïde, et sur la demande de la jeune fille, il consentit immédiatement à accompagner les dames. Dès les premiers temps de sa liaison avec la famille Epanchine, il avait entendu parler du prince dans cette maison, et ce qu'on lui en avait dit l'avait fort intéressé. Lui-même se trouvait connaître Mushkine. 3 mois auparavant, ils s'étaient rencontrés quelque part et avaient passé 15 jours ensemble dans une petite ville. Tch-tch avait raconté aux dames diverses particularités sur le prince, et en général, il parlait de lui en termes très sympathiques. Aussi, ce fut avec un sincère plaisir qu'il accepta la proposition de faire visite à une ancienne connaissance. Cette fois, Ivan Fédorovitch ne se trouvait pas à la maison. Eugène Pavlovitch n'était pas encore arrivé non plus. De la villa des Epanchine à celle de Lebedev, il n'y avait pas plus de 300 pas. En entrant chez le prince, ce fut pour Elisabeth Prokofievna une première contrariété d'apercevoir autour de lui toute une société, sans compter que parmi ses visiteurs, il y en avait 2 ou 3 qu'elle détestait cordialement. Ensuite, la générale, qui s'attendait à trouver un moribond, fut fort étonnée quand elle vit s'avancer au-devant d'elle un jeune homme souriant, mis avec élégance. Et autant qu'on en pouvait juger à première vue, très bien portant. Elle demeura stupéfaite, et son désappointement causa un plaisir extraordinaire à Kolia. Sans doute il aurait très bien pu la détromper avant qu'elle sortît de sa villa, mais le malicieux gymnasiste n'avait eu garde de le faire, pressentant la colère comique que ne manquerait pas d'éprouver la générale lorsqu'elle trouverait le prince, son cher ami, en bonne santé. Kolia poussa même l'indélicatesse jusqu'à s'applaudir tout haut de son succès, pour achever de vexer Elisabeth Prokofievna, avec qui nonobstant leur relation d'amitié, il était continuellement en pique. « Attends un peu, mon cher, ne te presse pas, ne gâte pas ton triomphe !» répondit-elle en prenant place sur un fauteuil que le prince lui avait avancé. Les Bedef, Ptitsine et Ardalion Alexandrovitch se hâtèrent de faire asseoir les jeunes filles. Le général offrit une chaise à Aglaé. Les Bedef en présenta une aussi au prince Tch, ce qu'il fit en s'inclinant jusqu'à la ceinture. Varia, comme de coutume, échangea à voix basse de chaleureux compliments avec les demoiselles. « C'est vrai, prince, que je croyais te trouver au lit, tant la peur m'avait grossi les choses. Et pourquoi mentirais-je? Sur le moment, ta bonne mine m'a mise en colère. Mais je te le jure, cela n'a duré qu'une minute. Je n'avais pas encore eu le temps de réfléchir. Quand je réfléchis, je parle et j'agis toujours plus intelligemment. Je crois qu'il en est de même de toi. En réalité, la guérison de mon propre fils, si j'en avais un, me ferait peut-être moins de plaisir que la tienne. Si tu ne le crois pas, c'est pour toi qu'est la honte, et non pour moi. Mais ce méchant garçon se permet de me jouer bien d'autres tours. Tu le protèges, paraît-il. Aussi, je te préviens qu'un beau matin, je me priverai, sois-en sûr, de l'honneur et du plaisir de cultiver plus longtemps sa connaissance. « Mais de quoi suis-je donc coupable ? » cria Kolia. « J'aurais eu beau vous assurer que le prince était presque rétabli, vous n'auriez pas voulu me croire, parce qu'il était beaucoup plus intéressant de se le représenter au lit de mort. « Pour combien de temps es-tu ici ? » demanda Elisabeth Prokofievna au prince. « Pour tout l'été, et peut-être pour plus longtemps. »« Tu es seule ? Tu n'es pas mariée ?»« Non, je ne suis pas mariée, » répondit le prince, que cette pointe naïvement lancée fit sourire. « Pourquoi souris-tu ? Ce sont des choses qui arrivent. Parlons maintenant de ton habitation. Pourquoi n'es-tu pas venu loger chez nous ? Nous avons tout un pavillon qui est inoccupé. Du reste, fais comme tu veux. C'est là ton propriétaire ? » demanda-t-elle à mi-voix en montrant d'un signe de tête les Bedef. « Pourquoi fait-il toujours des grimaces ?» En ce moment, Viera, qui portait comme toujours le bébé dans ses bras, sortit de la maison et s'approcha de la terrasse. Les Bedef tournaient autour des chaises et ne savaient décidément où se mettre, mais ils ne songeaient nullement à s'en aller. Il n'eut pas plutôt aperçu sa fille qu'il s'élança vers elle en agitant les bras pour l'éloigner de la terrasse. Il s'oublia même jusqu'à frapper du pied. « Il est fou ? » dit brusquement la générale. « Non, il... Il est ivre, peut-être. Ta société n'est pas des mieux composées, » ajouta-t-elle après avoir embrassé du regard les autres visiteurs. « Mais quelle jolie jeune fille ! Qui est-ce ? » « C'est Viera Loukianovna, la fille de ce Lebedev. »« Ah, elle est fort gentille. Je veux faire sa connaissance. » À peine Lebedev eut-il entendu ces paroles qu'il courut chercher Varia pour la présenter à la générale. « Des orphelins ! Des orphelins ! » commença-t-il d'un ton pathétique en s'approchant d'Elisabeth Prokofievna. « Et cet enfant qu'elle a sur les bras est aussi un orphelin ? « C'est sa sœur, ma fille Lubov, née en légitime mariage de ma défunte épouse Hélène, qui, il y a de cela 6 semaines, est morte en couche par la volonté de Dieu. Oui, elle lui tient le de mère, quoiqu'elle ne soit que sa sœur, et rien de plus que sa sœur. Rien de plus, rien de plus. Et toi, Batouchka, tu n'es rien de plus qu'un imbécile, excuse-moi. « Allons, assez, tu le comprends toi-même, je pense, » répliqua la générale avec une indignation extraordinaire. Lebedev s'inclina profondément. « C'est la vérité vraie, » répondit-il avec le plus grand respect. « Écoutez, monsieur Lebedev, on dit que vous expliquez l'Apocalypse. Est-ce vrai ?» demanda Aglaé. « C'est la vérité vraie, depuis 15 ans. » « J'ai entendu parler de vous. Il a même été question de vous dans les journaux, je crois. » Non, c'est d'un autre commentateur que les journaux ont parlé, mais celui-là est mort, et c'est moi qui l'ai remplacé, » dit Lebedev, ivre de joie. « Nous sommes voisins. Ayez donc la bonté de venir un de ces jours m'expliquer l'Apocalypse. Je n'y comprends rien. »«
Je ne puis pas ne pas vous prévenir, Aglaé Ivanovna, que tout cela n'est de sa part que du charlatanisme. »
Intervint brusquement le général Ivolguin, qui s'était assis à côté d'Aglaé et depuis longtemps brûlait de lui adresser la parole.
Sans doute la campagne a ses droits et ses plaisirs, continua Ardalion Alexandrovitch, et recevoir un intrus si extraordinaire pour l'entendre pérorer sur l'Apocalypse est une fantaisie comme une autre, je dirais même une fantaisie remarquable au point de vue de l'esprit. Mais vous avez l'air de me regarder avec étonnement.
Le général Ivolguin, j'ai l'honneur de me présenter. « Je vous ai porté sur mes bras, Aglaé Ivanovna. »«
Enchantée. Je connais Barbara Ardalionovna et Nina Alexandrovna, » murmura la jeune fille, qui faisait tous ses efforts pour ne pas éclater de rire. Elisabeth Prokofievna rougit de colère. Elle ne pouvait souffrir le général, qu'elle avait connu autrefois, mais avec qui, depuis fort longtemps, elle avait cessé toute relation.
« Tu mens selon ton habitude, Batouchka. Jamais tu ne l'as porté sur tes bras !» dit-elle d'une voix indignée à Ardalion Alexandrovitch.
« Vous l'avez oublié, maman, mais la vérité est qu'il m'a porté, à Tver !» assura soudain Aglaé. « Nous habitions alors Tver. C'était quand j'avais 6 ans, je m'en souviens. Il m'a fait un arc et une flèche, il m'a appris à tirer, et j'ai tué un pigeon. » Vous rappelez-vous le pigeon que nous avons tué ensemble? Et à moi, il a apporté un casque de carton et une épée de bois. Je m'en souviens aussi, cria Adélaïde.
Moi aussi, je me le rappelle, ajouta Alexandra.
Vous vous êtes querellés à propos du pigeon blessé, et on vous a mis chacune dans un coin. Adélaïde est restée là avec son casque et son épée.
En disant à Aglaé qu'il l'avait porté sur ses bras, le général ne croyait dire qu'une parole en l'air. C'était un simple préambule pour engager la conversation, une phrase dont il avait coutume de se servir chaque fois qu'il voulait entrer en rapport avec des jeunes gens. Mais dans le cas présent, il se trouva avoir dit la vérité, et une vérité que lui-même avait oubliée. Aussi, lorsque Aglaé lui eut rappelé le pigeon qu'ils avaient tué ensemble, la mémoire du vieillard se réveilla instantanément. Et, comme il arrive souvent au déclin de l'âge, tous les détails d'un passé lointain se représentèrent à lui. Il serait difficile de dire ce qui, dans ses souvenirs, pouvait affecter si vivement le pauvre général, alors un peu gris selon son habitude. Quoi qu'il en soit, il éprouva soudain une émotion extraordinaire.
« Je m'en souviens, je me rappelle tout !» s'écria-t-il. « J'étais alors capitaine d'état-major. Vous étiez si mignonne, si gentillette. Nina Alexandrovna, Gania, j'ai été chez vous. J'y ai été reçue, Ivan Fedorovitch.
Et tu vois où tu en es arrivé maintenant ?» reprit la générale. Pourtant, tu n'as pas noyé dans la boisson tout sentiment noble, puisque cela a produit un tel effet sur toi. Mais tu as empoisonné l'existence de ta femme. Au lieu d'être un guide pour tes enfants, tu t'es fait mettre dans une prison pour dette. Retire-toi d'ici, Batouchka. Va te cacher quelque part, derrière une porte, dans un petit coin, et pleure. Rappelle-toi ton ancienne innocence. Peut-être que Dieu te pardonnera. Va donc. « Va, je te parle sérieusement. Le meilleur moyen de se corriger, c'est de songer au passé avec regret. »
Mais elle aurait pu se dispenser d'insister. Le général avait la sensibilité des ivrognes d'habitude, et comme tous les individus que la boisson a fait déchoir d'une position brillante, il ne songeait à son heureux passé qu'avec un cruel chagrin. Il se leva, et docilement se dirigea vers la porte. Cette humilité désarma aussitôt Elisabeth Prokofievna.
« Ardalion Alexandrovitch, Batouchka !» lui cria-t-elle. « Reste encore une petite minute. Nous sommes tous pécheurs. Quand tu sentiras que ta conscience t'adresse moins de reproches, viens chez moi. Nous passerons un moment ensemble. Nous jaserons sur le passé. Moi-même, je suis peut-être 50 fois plus coupable que toi. Allons. Maintenant, adieu. Va-t'en. Tu n'as que faire ici. »
acheva-t-elle, prise d'une inquiétude soudaine en le voyant revenir.
« Pour le moment, vous feriez mieux de ne pas le surveiller, » dit le prince à Kolia, qui s'élançait déjà sur les pas de son père. « Autrement, d'ici à une minute, il se fâchera, et rien ne subsistera de ses bonnes dispositions présentes. »«
C'est juste, laisse-le tranquille. Tu iras le retrouver dans une demi-heure. » décida Elisabeth Prokofievna.
Voilà ce que c'est que de faire entendre la vérité à un homme, ne fût-ce qu'une fois dans sa vie. Il a été ému jusqu'aux larmes,
se permit d'observer Lebedev.
Eh bien, toi aussi, Batouchka, tu dois être quelque chose de propre, si ce que j'ai entendu dire est vrai,
lui envoya immédiatement Elisabeth Prokofievna. Peu à peu, se précisa la situation réciproque des diverses personnes réunies chez le prince. Celui-ci, naturellement, était en mesure d'apprécier et appréciait tout l'intérêt que lui témoignaient la générale et ses filles. Il leur déclara que lui-même, avant leur visite, avait l'intention de les aller voir, nonobstant sa maladie et malgré leur avancée. Elisabeth Prokofievna lui répondit, en regardant les visiteurs, que rien ne l'empêchait de mettre sur le champ ce projet à exécution. Ptitsine, homme très poli, ne tarda pas à battre en retraite vers le pavillon de Lebedev. Il aurait bien voulu emmener l'employé avec lui. Ce dernier promit de l'aller bientôt rejoindre. Varia, qui pendant ce temps causait avec les jeunes filles, ne bougea pas de sa place. Elle et son frère étaient fort contents du départ de leur père. Gania se retira peu après Ptitsine. Durant les quelques minutes qu'il avait passées sur la terrasse, sous les yeux des dames Epanchin, il avait eu une attitude modeste, mais digne, et ne s'était nullement laissé troubler par les regards sévères d'Elisabeth Prokofievna, qui, à deux reprises, l'avait toisé des pieds à la tête. De fait, ceux qu'il avait connus jadis pouvait le croire très changé. Sa manière d'être plut beaucoup à Aglaé.
« C'est Gabriel Ardalionovitch qui vient de sortir » demanda-t-elle de but en blanc.
Elle aimait assez à jeter ainsi au milieu de la conversation des autres une brusque question qui ne s'adressait à personne en particulier.
« Oui, » répondit le prince. « Je l'ai à peine reconnu. Il est bien changé. » Et à son avantage.
J'en suis bien aise pour lui, reprit Mouichkine.
Il a été très malade, fit remarquer Varia. Elle prononça ces mots d'un ton de commisération où néanmoins perçait la joie. L'observation d'Aglaé avait surpris et presque inquiété sa mère.
Sous quel rapport a-t-il gagné? Demanda avec colère Elisabeth Prokofievna.
« Où as-tu pris cela? Il n'est pas mieux du tout. Qu'est-ce que tu trouves mieux ?»«
Il n'y a rien de mieux que le chevalier pauvre !» cria tout à coup Kolia, inamovible derrière la chaise de la générale.
« C'est aussi ce que je pense !» dit en riant le prince Tch.
« Je suis tout à fait de cet avis !» ajouta solennellement Adélaïde.
« Quel chevalier pauvre ! » questionna la générale intriguée, et elle regarda d'un air vexé tous ceux qui venaient de parler. Mais remarquant qu'Aglaé rougissait, elle poursuivit avec irritation.
« Quelque absurdité, sans doute! Qu'est-ce que ce chevalier pauvre ?
Est-ce la première fois que ce gamin, votre favori, dénature les paroles d'autrui ?
Répondit Aglaé avec une indignation mêlée de mépris. Elle était fort sujette aux boutades, mais dans ses sorties les plus violentes en apparence, se laissait presque toujours apercevoir quelque chose de si enfantin que parfois il était impossible, en la regardant, de conserver son sérieux. Cela, naturellement, ajoutait encore à l'exaspération de la jeune fille. Elle ne comprenait pas de quoi on riait, ni comment on pouvait, comment on osait rire. Dans le cas présent, l'emportement d'Aglaé provoqua l'hilarité de ses sœurs et du prince Tch. Kolia, triomphant, riait aux éclats. Aglaé se fâcha pour tout de bon, ce qui la rendit deux fois plus belle. Son agitation et le dépit qu'elle en éprouvait lui seyaient admirablement. « N'a-t-il pas souvent travesti vos paroles ? » continua-t-elle. « Je me fonde sur une exclamation proférée par vous-même, » répliqua vivement Kolia. « Il y a un mois, vous avez feuilleté Don Quichotte, et vous vous êtes écrié en propres termes. « Il n'y a pas mieux que le chevalier pauvre !»« Je ne sais de qui vous parliez alors, si c'était de Don Quichotte, d'Eugène Pavlitch ou d'un autre encore. Toujours est-il que vos paroles s'appliquaient à quelqu'un. Ensuite a eu lieu une longue conversation. « Je vois, mon cher, que tu te permets trop dans tes conjectures !» interrompit avec colère Elisabeth Prokofievna. « Mais est-ce que je suis le seul ?» répondit hardiment Kolia. « Tout le monde a parlé alors, et parle encore maintenant. Tenez, tout à l'heure, le prince Tch, Adélaïde Ivanovna et les autres ont déclaré qu'ils étaient pour le chevalier pauvre, et par conséquent, le chevalier pauvre existe. Il doit nécessairement exister. Et selon moi, sans Adélaïde Ivanovna, il y a longtemps que nous serions tous qui il est. Quelle est ma faute ? Demanda en souriant Adélaïde. C'est de n'avoir pas voulu faire son portrait. Aglaé Ivanovna vous avait prié de reproduire les traits du chevalier pauvre. Elle vous avait donné tout le sujet du tableau, tel qu'elle-même le concevait. Vous rappelez-vous le sujet ? Vous n'avez pas voulu... Mais comment aurais-je fait son portrait ? Qui aurais-je représenté ? D'après les indications données, ce chevalier pauvre... ne levait devant personne la visière d'acier de son casque. Dès lors, quel visage pouvait-on lui donner ? Il aurait fallu peindre une visière ? Un anonyme ? « Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que cette visière ?» cria la générale agacée. À part soi, elle commençait à deviner de qui on parlait ainsi à mots couverts. Le pauvre chevalier était une dénomination conventionnelle dont sans doute les jeunes filles, entre elles, avaient depuis longtemps coutume de se servir. Mais cette plaisanterie mécontentait d'autant plus Elisabeth Prokofievna qu'elle voyait l'embarras du prince Léon Nikolaïevitch. Ce dernier, en effet, était aussi confus qu'un enfant de 10 ans. « Est-ce que cette sottise va durer indéfiniment ? » poursuivit-elle. « M'expliquera-t-on, oui ou non, ce que c'est que ce chevalier pauvre ? C'est donc un secret bien terrible qu'on a si peur de le dévoiler ?» De nouveaux rires furent la seule réponse qu'obtint la générale. « Il s'agit tout bonnement d'une étrange poésie russe intitulée « Le chevalier pauvre », finit par dire le prince Tch, évidemment désireux de changer au plus tôt la conversation. C'est un morceau qui n'a ni commencement ni fin. Il y a juste un mois, on riait tous ensemble après le dîner, et on cherchait, comme à l'ordinaire, un sujet pour le futur tableau d'Adélaïde Ivanovna. Vous savez que c'est depuis longtemps la tâche commune de toute la famille. Tous les suffrages se sont portés sur le chevalier pauvre. Qui l'a proposé le premier, je ne m'en souviens pas. C'est Aglaé Ivanovna ! Cria Kolia. « Peut-être, je ne dis pas le contraire, seulement je ne m'en souviens pas, » reprit le prince Tch. « Les uns ont ri de ce sujet, les autres ont dit qu'il ne pouvait pas y en avoir de plus élevé, mais que, pour représenter le chevalier pauvre, il fallait, en tout cas, un visage. On a passé en revue les têtes de toutes les connaissances, pas une ne convenait, et la chose en est restée là. Voilà tout. Je ne comprends pas pourquoi Nicolas Ardalionovitch s'est avisé de rappeler tout cela. Ce qui alors était plaisant et avait de la propos manque tout à fait d'intérêt maintenant.
C'est qu'il y a là-dessous quelques nouvelles sottises, quelques persiflages injurieux,
déclara sévèrement Elisabeth Prokofievna.
Il n'y a aucune sottise, il n'y a qu'une profonde estime,
dit brusquement Aglaé, qui prononça ces mots avec une gravité inattendue. Toute trace de son agitation précédente avait disparu. Bien plus, à en juger d'après certains indices, elle-même à présent semblait voir avec plaisir le développement que prenait la plaisanterie. Ce changement s'était opéré chez la jeune fille, alors précisément que la confusion du prince devenait le plus manifeste.
Ils rient comme des fous, et tout d'un coup, ils témoignent de leur profonde estime. Cela n'a pas de sens. Pourquoi de l'estime? Réponds tout de suite. Que veux-tu dire en parlant ici de ta profonde estime?
Reprit d'un ton courroucé la générale.
Je répète les mots, profonde estime, répondit Aglaé avec le même sérieux qu'auparavant. Parce que dans ces vers, est représenté un homme capable d'avoir un idéal et de lui consacrer toute sa vie. Cela ne se rencontre pas si souvent à notre époque. Cette poésie ne nous dit pas en quoi consistait proprement l'idéal du pauvre chevalier. Mais on voit que c'était une image radieuse, l'image d'une beauté pure, et que l'amoureux chevalier portait même, au lieu d'écharpe, un chapelet autour de son cou. À la vérité, il y a encore là une devise obscure, énigmatique, les lettres A, N, B, qu'il avait tracées sur son écu.
A, N, D, rectifia Kolia.
Moi je dis A, N, B, et je veux dire ainsi, répliqua avec colère Aglaé. En tout cas, une chose est claire, c'est que, quelle que fût sa dame, quoi qu'elle fît, peu importait à ce pauvre chevalier. Il l'avait choisi, il avait cru à sa beauté pure, cela suffisait pour que désormais il ne cessât de s'incliner devant elle. S'étant une fois déclaré son serviteur, il devait, fût-elle ensuite devenue une voleuse, croire en elle et rompre des lances pour sa beauté pure. Le poète a voulu, semble-t-il, incarner dans un type extraordinaire la notion de l'amour platonique, telle que la concevaient les chevaliers du Moyen-Âge. Naturellement, tout cela est un idéal. Dans le chevalier pauvre, ce sentiment est arrivé au plus haut degré, à l'ascétisme. Il faut avouer que la faculté d'aimer ainsi prouve beaucoup en faveur de celui qui la possède. C'est un trait de caractère qui dénote une âme profonde et, en un sens, est très louable. Le chevalier pauvre, c'est Don Quichotte, mais un Don Quichotte sérieux et non comique. D'abord, je ne comprenais pas ce personnage et j'en faisais des gorges chaudes. Mais maintenant, j'aime le chevalier pauvre. Et surtout, je respecte ses hauts faits. Ainsi finit Aglaé. Et en l'observant, il était difficile de reconnaître si elle parlait sérieusement ou pour rire. « Eh bien, il est sot, et j'en dirai autant de ses hauts faits !» déclara la générale. « Mais, en fait de sottises, toi aussi, Matouchka, tu en as dégoisé long, toute une leçon. À mon avis, ce rôle-là ne te va pas. En tout cas, ce n'est pas permis. Quels sont ces vers? Récite-les, tu dois les savoir. Je veux absolument connaître cette poésie. Je n'ai jamais pu souffrir les vers. C'était sans doute un pressentiment. » Pour l'amour de Dieu, prince, prends patience. C'est évidemment la seule chose que nous ayons à faire, toi et moi,
ajouta-t-elle en s'adressant à son hôte. Elle était très fâchée. Le prince Léon Nikolaïevitch voulut parler, mais sa confusion ne lui permit pas de proférer un mot. Seul Aglaé, qui venait de s'accorder tant de licences durant sa leçon, était parfaitement à son aise et paraissait même contente. On aurait dit qu'elle s'était préparée d'avance à réciter les vers en question et qu'elle attendait seulement qu'on l'y invitât. Toujours sérieuse et grave, la jeune fille se leva immédiatement et vint se camper au milieu de la terrasse,
vis-à-vis du fauteuil où le prince était assis. Tous la considéraient d'un air étonné. La plupart, les sœurs, la mère, le prince Tch, voyaient avec un sentiment désagréable cette nouvelle gaminerie qui frisait positivement l'inconvenance. Cependant, il était visible qu'Aglaé trouvait un grand plaisir dans toute cette mise en scène par laquelle elle préludait à la récitation des vers. Élisabeth Prokofievna fut sur le point de la renvoyer brutalement à sa place. Mais au moment même où Aglaé commençait à déclamer la célèbre ballade, deux messieurs, causant à haute voix, se montrèrent sur la terrasse. C'étaient Ivan Fedorovitch et Panchine, qui arrivaient suivis d'un jeune homme. À leur apparition, un certain mouvement se produisit dans la société.